Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Me revoilà après 3 semaines de pause, qui n'étaient pas vraiment des pauses, hein. J'ai toujours mon émission et puis j'ai fait les matinales et puis j'étais en tournée, enfin bref, j'étais un petit peu occupée, du coup je vous ai fait des petites rediffs. J'espère que vous ne m'en voulez pas, je vous aime. Mais aujourd'hui, pour ce nouveau départ, on va parler de Pearl Harbor et je vous le dis tout de suite, on va pas enfiler les perles. Harbor, par rapport au nom de l'épisode. Oh, c'est excellent vraiment, je suis très en forme pour cette reprise. Non, mais en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit attaque tambour battant, histoire de bien catcher ton auditoire. Là, je crois qu'on peut dire que c'est fait, vous êtes catché. Donc on va pouvoir y aller, et direction Hawaï, et plus précisément l'île d'Oahu et sa baie de Pearl Harbor. Pour moi, Pearl Harbor, c'était un film. Mais bon, je me doutais bien qu'il racontait une vraie histoire, du coup j'ai regardé sur internet, et je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Pearl Harbor, c'est une attaque qui a eu lieu le 7 décembre 1941 et qui marque un tournant dans l'histoire des États-Unis, mais aussi dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, puisque c'est à la suite de cet événement que Franklin Roosevelt, alors président des États-Unis d'Amérique, décide d'entrer en guerre contre le Japon et l'Axe du Mal. L'Axe, pour celles et ceux qui ont oublié, genre moi, c'était l'alliance entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon, une alliance tout sauf ethnique. L'alliance va tellement funky. Vina et Melka. Make it funky. L'esprit de l'alliance est funky. Mais revenons un peu en arrière pour bien comprendre comment on en est arrivé là. Depuis la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, le Japon entreprend d'étendre son empire à toute l'Asie orientale. Après avoir annexé Taïwan, puis la Corée, c'est quelques années plus tard la Chine qui est envahie en 1937. Et puis en septembre 1940, le Japon signe donc un pacte tripartite avec la crème de la crème. L'Allemagne d'Hitler et l'Italie de Mussolini. Quand je vous ai dit que c'était la crème de la crème, c'était vraiment la crème des connards. Mais Hitler et Mussolini, c'était vraiment des gars avec le cœur sur la main en fait. Bon, un cœur rempli de tout ce qu'il y a de plus horrible hein, et une main plus rêche qu'une serviette de bain de chez ta grand-mère. Hein. J'irais même jusqu'à dire carrément une main Reich. Et si la Seconde Guerre mondiale a déjà bien démarré en Europe, les États-Unis, eux, restent encore dans une position d'attente et se tiennent à l'écart du conflit. Oui, à ce moment-là, c'est pas trop leur délire du moment, hein. La guerre, les bombes, hein, tout ça c'est quand même hyper chronophage. Bon, ils se préparent quand même au cas où et surveillent de près le Japon qui place calmement ses pions dans le Pacifique et vient d'implanter des bases militaires en Indochine française. Alors officiellement, le Japon veut se détacher de la dépendance aux pays occidentaux. Officieusement, le Japon rêve plutôt d'un immense empire qu'il contrôlerait gentiment. Et ça, ça plaît pas du tout aux États-Unis, qui ont pas mal de territoires dans le Pacifique, qu'ils contrôlent eux-mêmes, gentiment. Si les relations entre le Japon et les États-Unis ne sont pas au beau fixe, l'année 1941 va cristalliser toutes les tensions entre les deux pays. En mai 1941, Washington apporte son soutien à la Chine en lui accordant un prêt-bail. Alors, prêt-bail, c'est un mot valise, hein. Et là il n'est pas question de banquier ou de propriétaire, mais en fait c'est un arrangement, en gros, qui dit qu'un pays va fournir pour un petit moment à un autre pays des équipements militaires, des fournitures, des ressources essentielles et des ressources pour mener des opérations militaires sans que cela ne constitue une vente ou un échange formel. En gros c'est tiens, je te prête des trucs, tu me les rendras quand tu pourras, voilà. Bon, face aux envies de grandeur des Japonais et accessoirement au massacre de nombreux Chinois, les États-Unis ripostent non pas sur le terrain militaire, mais sur le terrain économique. À l'été 41, ils décrètent un embargo sur le pétrole et l'acier, ainsi qu'un gel des avoirs japonais sur le sol américain. Et ça, ça fait très mal aux Japonais puisqu'ils importent 80% de leur pétrole depuis les États-Unis. Et s'ils ne trouvent pas de solution, dans 2 ans, ils seront à sec. Le 6 septembre 1941, le Japon annonce qu'en l'absence d'un accord avec les États-Unis concernant la levée de l'embargo et l'arrêt de l'aide économique et politique aux Chinois, et ils mettront fin aux discussions et ils déclareront la guerre, tout simplement. Là, il y a le Premier ministre japonais qui pousse plus pour l'apaisement que pour une confrontation, et il se propose de négocier avec les USA. En plus, ils sont déjà engagés dans une guerre avec la Chine qui dure. C'est peut-être pas la peine de se remettre tout de suite une tanasse de l'autre côté du Pacifique. Mais là, le président Franklin Roosevelt refuse de le rencontrer. Pour lui, c'est simple. Tant que le Japon ne s'est pas retiré de la Chine, il bougera pas. Et Franklin, il savait être dur en négociation. Il savait aussi lacer ses chaussures et compter deux par deux. Mais pardon, je m'égare. Bref, et le temps passe, et pas grand-chose à changer. Le 14 octobre, le ministre des Armées fait le bilan calmement et annonce que l'échéance pour un accord est passée. Le premier ministre japonais, toujours pas hyper chaud à l'idée de s'attaquer aux États-Unis, démissionne.
Now, sashay away.
Donc l'empereur du Japon nomme un mec, le général Tojo, nouveau premier ministre. Et ça tombe hyper bien parce que ce monsieur, il est beaucoup plus enclin à prendre les armes. Mais maintenant se pose un nouveau dilemme. Du coup, guerre ou pas guerre ? Non mais comme ils ont dit qu'ils voulaient plus négocier les Américains. Parce que en gros, soit les Japonais renoncent à la guerre, mais ils seront pas le grand empire auquel ils aspirent être, soit ils renoncent à la paix. Et ils se lancent dans une guerre dont l'issue est plus qu'incertaine, sachant qu'après 2 ans, la victoire devient impossible, puisqu'ils n'auront plus ni de pétrole ni d'acier. Du coup, pas folle la guêpe, ils vont préparer la guerre tout en essayant de poursuivre des négociations. Après tout, sur un malentendu, ça peut passer. Et, grosse surprise, nouvelle négo, ouais, nouvel échec, oh. On dirait ma meuf en train de me demander d'adopter un chien. Allez, s'il te plaît, il est pas trop mignon. En plus, je sais, on pourrait l'appeler Jenny Flair ou Christouf, non ? Ou autre chose, hein, je suis pas fermée, hein. Bon, par contre, là, cette fois-ci, le Japon prépare très sérieusement une attaque. Le chef de l'état-major de la marine impériale japonaise, Osami Nagano, présente à l'empereur son plan d'attaque de la base navale de Pearl Harbor. Et l'empereur, il trouve ça assez alléchant comme idée. Oui, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre-temps, Roosevelt, il s'est quand même inquiété un petit poil de la dégradation des relations avec le Japon, et puis surtout au risque que ça pose pour les territoires américains dans le Pacifique. Donc il décide de déplacer la flotte américaine de sa base de Californie à Hawaï, et plus précisément à Pearl Harbor, où elle sera bien mieux placée pour intervenir si besoin. Alors je vous le rappelle quand même, Hawaï, avant d'être un style de chemise complètement discutable, c'est d'abord une île en plein milieu de l'océan Pacifique, presque à mi-chemin entre les États-Unis et le Japon. Donc une attaque se prépare et c'est l'amiral Isoroku Yamamoto qui a la lourde tâche d'organiser cette attaque. Et autant vous dire qu'il flippe un peu. Mais Yamamoto, il a un truc pour lui, c'est qu'en fait il a étudié à Harvard et il a travaillé comme attaché naval aux USA. Donc il a l'avantage de bien connaître la puissance navale du pays ennemi. Et il sait que pour réussir l'attaque, il va devoir surprendre les Américains. Et ça, surprendre les Américains, c'est pas fastoche fastoche. Les deux seuls qui y arrivent vraiment, c'est Trump quand il dit des dingueries, et Beyoncé quand elle sort des albums de country sans prévenir personne. Yamamoto pense alors à une approche audacieuse et novatrice. Une attaque aérienne massive depuis des porte-avions positionnés au large de l'île d'Oahu. Au début du mois de novembre, il y a un mec qui s'appelle Shuichi Nagumo, qui est vice-amiral, qui est nommé commandant de la mission et lui, il fixe une date pour cette attaque et ce sera le 7 décembre 1941, jour de la Saint-Ambroise, mais je pense que ça n'a aucun rapport. Le 18 novembre, l'US Navy réussit à intercepter et décrypter des informations envoyées aux ambassadeurs japonais à Washington. Le message stipule qu'en cas d'urgence, des alertes codées seront transmises au milieu des informations radiophoniques quotidiennes japonaises et plus précisément pendant le bulletin météo. Le code était le suivant. Si le ou la journaliste parlait de
« vent du nord nuageux »,
cela signifiait « guerre avec l'Union soviétique »,«
vent d'ouest temps clair », »,«
guerre avec l'Angleterre et ses colonies »,
et « vent d'est, temps pluvieux », »,«
guerre avec les États-Unis ». Et puis s'il disait « vent frais, vent du matin », ça voulait dire qu'il y avait du vent qui soufflait au sommet des grands pins. Ouais, oui. Alors si les délégués japonais, les espions un petit peu, hein, en terre étrangère, entendaient ces rapports météo, ils avaient pour ordre de détruire tous les livres de code, certainement pour que plus personne ne puisse passer son permis aux États-Unis, et ainsi ne plus rouler, pour économiser le pétrole sans doute. Un petit peu chelou, mais bon.
Nous sommes de retour.
Pour jouer un mauvais tour.
La Team Rocket, plus rapide que la lumière.
Rendez-vous tous, ou ce sera la guerre.
Oui, la guerre.
Donc en vrai, c'est brûler les livres de code qui expliquent les codes, en fait, tout simplement. Bon, en tout cas, les services de renseignement sont sur le qui-vive et plus personne ne loupe un bulletin météo d'Evelyne Delia. Les cumulus, les anticyclones et autres hectopascales n'ont plus aucun secret pour eux. Quand je vous parle d'hectopascal, je vous parle même d'hecto-Jean-Pascal.
Je suis un cumulonimbus 1, degrés Celsius, une aurore boréale. My name is Hector Jean-Pascal.
Encore une façon pour moi de montrer mon talent immense. Le 20 novembre, l'ambassadeur japonais présente l'ultimatum final aux États-Unis. Voilà, il y en a eu plein, on dirait moi, qui enregistre des versions de vulgaire dans mon ordinateur. C'est vulgaire Pearl Harbor V1, vulgaire Pearl Harbor VDF, vulgaire Pearl Harbor VDF 2, vulgaire Pearl Harbor VDF DEF, on dirait moi. Bon, en tout cas, en attendant la réponse des États-Unis, plutôt convaincus qu'elle serait pas celle de la main tendue, les Japonais font gentiment déplacer leur flotte dans le plus grand secret. Elle quitte les îles Kuril, au nord du Japon, pour venir se poser à 300 km au nord-ouest d'Hawaï, et c'est ici que le raid contre Pearl Harbor doit être lancé, si jamais les States ne veulent pas négocier, bien entendu. Et le 1er décembre, les États-Unis, par l'intermédiaire de Cordell Hull, le secrétaire d'État américain, y sont catégoriques.
No way! Enfin, sauf si vous vous retirez de la Chine. C'est possible ou pas? Yes, no? Yes, no? No?
Les diplomates japonais de Washington, Londres, Manille, Hong Kong et Singapour reçoivent alors l'ordre de brûler leur code.
Tiens, 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 comme par hasard, les services de renseignement interceptent le message et se doutent que ça ne sent pas bon. Mais ils ne savent pas où l'affrontement aura lieu.
De son côté, l'Allemagne se tient prête à attaquer les États-Unis dès que le Japon entrera en guerre. Le 6 décembre, Roosevelt tente un dernier appel pour la paix auprès de l'empereur japonais, qui lui laisse un bon gros vu. Ça, c'est pas cool. Étrangement, un peu plus tard le même jour, les renseignements US interceptent un message japonais. Un message en 14 parties. 13 seulement sont décryptés. En gros, ils refusent la dernière proposition du secrétaire d'État. Bon, 13 messages pour dire ça, c'est peut-être un peu exagéré. On dirait les vocaux de ma mère qui me demande si elle doit acheter le gâteau ou si c'est moi qui dois le faire pour ce week-end et que oui, la rocade est fermée dimanche et évidemment, ils annoncent de la pluie.
Je suis un cumulonimbus. 1 degré Celsius.
Oui, bah merci Hector Jean-Pascal, on l'a bien compris. Dans la nuit du 6 au 7, à Pearl Harbor, c'est là qui fonce.
C'est là qui fonce, c'est là qui fonce.
Les marins s'éclatent dans les bars, les clubs, il y a même des concours d'orchestre, hein, on est vraiment dans les années 40. Bref, on se la coule douce et on n'est pas du tout inquiet d'une éventuelle attaque. À 4h50, des sous-marins de poche japonais, donc c'est juste des petits sous-marins finalement qui entrent dans la poche, mais surtout, ils entrent dans la baie. Mais ils sont facilement repérés par les Américains. Et les Américains, ils doivent se dire « Oh, ils sont tout petits, c'est des trucs de poche !» Donc, ils donnent pas l'alerte générale. Bah, du coup, ils profitent de leur dimanche matin bien pépouze. À 6h15, le compte à rebours est lancé. Arbour, arbor, comme Pearl Harbor. Allez, Nagumo reçoit l'ordre d'envoyer les avions. Une première vague de 183 chasseurs, bombardiers et avions torpilleurs, commandés par le capitaine Fushida, décolle, ciblant principalement les navires de guerre amarrés dans le port et les installations militaires sur l'île d'Oahu. Alors, petit point technique, parce que c'est important, j'aime bien quand même quand on est précis. Sachez quand même que le bombardier torpilleur n'a rien à voir avec le bombardier en piqué, qui lui-même n'a rien à voir avec Gérard Piqué, l'ex-joueur de foot et ex de Shakira surtout, bref. Le bombardier torpilleur, c'est un avion de guerre, conçu de manière à transporter une torpille, utilisée pour détruire des navires ou des sous-marins. Il possède donc une soute à bombe, un peu comme un coffre de toit, mais placé sous l'avion. Le bombardier en piqué, comme son nom l'indique, est un avion qui plonge directement vers sa cible et qui le bombarde dans le même axe d'orientation. Ce qui fait qu'il est plus précis et qu'il peut attaquer des cibles plus petites et en mouvement. L'avion de chasse sert, quant à lui, à détruire les bombardiers ou les chasseurs ennemis pour s'assurer la maîtrise du ciel. Voilà. Là, normalement, vous êtes un collab sur les avions de guerre et c'est quand même important. Si jamais vous cherchez des informations sur les trucs du ciel, n'hésitez pas à faire appel à votre marine nationale.
Aujourd'hui, Fred s'initie à la haute voltige avec les acrobates du ciel de l'armée de l'air.
En tout cas, l'attaque est très organisée. Les bombardiers s'occupent des cuirassés et des porte-avions amarrés au port. Les bombardiers en piqué attaquent les avions stationnés sur les bases aériennes. Et enfin, les chasseurs doivent détruire les avions sur les aérodromes afin qu'ils ne puissent décoller pour défendre le port. La base navale est réveillée brutalement par le bruit des explosions. C'est le commandant Logan Ramsay du centre de commandement de Fort Island qui lance, à 7h58, 5 minutes après les premières explosions, une alerte qui depuis est restée célèbre.
Air Raid, Pearl Harbor, this is not a drill.
Attaque aérienne sur Pearl Harbor, ceci n'est pas un exercice. Les Américains se réveillent donc en gueule de bois et surtout ils sont pas du tout préparés à une éventuelle attaque, hein, persuadés que la menace n'était pas imminente. L'attaque est d'une violence inouïe. Les avions japonais plongent sur leur cible, larguent des bombes et des torpilles qui dévastent les navires de guerre américains, dont le célèbre cuirassé USS Arizona, qui explose après avoir été touché. Alors un cuirassé, c'est une sorte d'énorme navire de guerre ultra blindé et très badass avec une grande puissance de feu. Les bases aériennes américaines sont évidemment prises pour cible également, et de nombreux avions au sol sont détruits. 30 minutes après la première attaque, la deuxième vague prend le relais avec 171 appareils. Cette fois, les Américains ripostent avec leurs pistolets mitrailleurs et leurs revolvers vers les chasseurs bombardiers. Ça pétarade de tous les côtés. Autant te dire que si tu dors encore, c'est que vraiment tu ronfles extrêmement fort ou qu'il faut passer chez l'ORL. À titre personnel, j'aurais probablement pas entendu, parce que vraiment, moi, je ronfle particulièrement fort. Vers 10h, le silence se fait de nouveau entendre. C'est visiblement la fin du raid. L'attaque a duré environ 2 heures et a été extrêmement dévastatrice. 2400 Américains y sont tués, y compris quelques civils. La moitié a péri dans l'explosion et le naufrage de l'USS Arizona. On compte un peu plus de 1000 blessés. Les Japonais ont coulé ou endommagé gravement 8 cuirassés, 3 croiseurs et 3 destroyers.
Destroyer.
Ainsi que de nombreux autres navires de guerre. Il y a aussi 200 avions qui sont détruits et 150 sont endommagés au sol. Il faut savoir que les Japonais ont vachement longtemps hésité à envoyer une troisième vague pour détruire les réserves de carburant ainsi que les infrastructures servant aux réparations de la flotte. Mais les risques de représailles et le potentiel manque de carburant ont conduit l'amiral Nagumo à renoncer. En fait, l'objectif final de la mission, à savoir neutraliser la flotte américaine du Pacifique, était atteint. Et cette décision, elle sera en réalité lourde de conséquences parce que malgré les dégâts importants infligés par l'attaque, une grande partie des navires et des cuirassés ont pu être réparés et prendre part à la bataille contre le Japon dans le Pacifique. Et un autre truc sur lequel les Japonais ont vraiment pas eu de chance, c'est que les porte-avions américains de la flotte du Pacifique, ils étaient en mer au moment de l'attaque. Ils ont donc miraculeusement échappé à la destruction. Et ça aura évidemment son importance dans la suite de la guerre. À Washington, la 14e partie du message est enfin décodée le 7 décembre. Elle confirme bien que les négociations sont définitivement closes, mais avec le décalage horaire, c'est trop tard. L'attaque a déjà eu lieu au moment où Roosevelt reçoit le message. Après l'attaque, les États-Unis sont plongés dans le choc et l'indignation. On est en 41, et je crois qu'on peut clairement dire qu'ils ont le seum. Le seum 41, ou le seum 41 pour les bilingues. Le lendemain de l'attaque, le président Franklin Roosevelt prononce un discours historique au Congrès. Sa première phrase restera dans les mémoires.
Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera marquée par l'infamie.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle désormais le 7 décembre aux États-Unis le jour de l'infamie. Dans la foulée, le Congrès américain vote pour déclarer la guerre au Japon, marquant l'entrée des États-Unis dans la Seconde Guerre mondiale, ce qui, soit dit en passant, fait lâcher un ouf de soulagement énorme aux alliés et surtout à Churchill, qui commençait sérieusement à se demander comment ils allaient s'en sortir. L'attaque de Pearl Harbor a donc changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Bon, on s'est aussi demandé pourquoi la base navale n'était pas mieux préparée à une attaque. Et là, le commandant de l'armée américaine, Walter Short, ainsi que le commandant en chef de la flotte du Pacifique, Husband Kimmel, ils ont été limogés et ils ont été blâmés pour leur absence de plan de défense efficace en prévision d'une attaque japonaise. À côté de ça, il y a plusieurs distinctions qui ont été décernées aux plus courageux, dont par exemple Doris Miller, qui était un cuisinier de la marine nationale et qui est devenu le premier noir américain à recevoir la Navy Cross, qui est la deuxième plus haute distinction de l'US Navy après la médaille d'honneur. En tout cas voilà, j'espère que maintenant c'est beaucoup plus clair pour vous, parce que c'était l'attaque de Pearl Harbor, mais en vulgaire. Cet épisode de Vulgaire a été écrit par Quentin Thiriot, moi c'est Marine Baousson. Il a été réalisé avec amour par le merveilleux Antoine Ollier. La musique est du fantastique Guillaume Béra du collectif Branx. Les illustrations et la création graphique sont de la fabuleuse Juliette Poney. Je les remercie tous les trois. Enfin, Vulgaire, c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas d'ailleurs à commenter, à mettre des étoiles, à vous abonner à mon Instagram et à bien vous brosser les dents tous les jours, c'est hyper important. Gros bisous et merci.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Le 29 juin 2021, le Parlement adoptait une loi qui ouvrait la procréation médicalement assistée, la PMA, aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Dans le lot des personnes qui attendaient ça avec impatience, il y avait moi, trentenaire, queer, rêvant de fonder une famille avec la femme qui partage sa vie. Le podcast « Attendre d'attendre un enfant », c'est l'histoire d'un parcours PMA. C'est l'histoire du mien, que je vous raconte avec force détail, comme si vous étiez mes meilleurs potos. Je m'appelle Sophie Rich, et je vous emmène avec moi dans cette folle aventure. Ensemble, on va apprendre des trucs et on va pleurer, mais promis, on va rigoler quand même. Et oh, on n'est pas des bêtes, ok ? « Attendre d'attendre un enfant », un nouvel épisode tous les lundis sur votre plateforme d'écoute préférée. À bientôt.